Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Old is beautiful, le vieux c'est beau. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle parce que ça y est, j'ai 33 ans.
Oh, t'es vieille.
Ouais, je sais.
Non.
Il n'y a pas Nico là, donc du coup, il n'y a que Simon et après moi. Et puis, bref. Salut les amis, comment ça va depuis vendredi?
Ça va nickel.
Nickel chrome.
Ça va.
En tout cas, vous êtes toujours aussi beau et nous avons la chance d'avoir encore autour de la table Cyprien Cadéo. Et est-ce que tu veux te présenter à nouveau?
Oui, bonjour à tous. Je suis journaliste politique à la base à l'Humanité, donc le journal, et je suis aussi critique de cinéma.
Eh ben écoute, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fou parce qu'en fait, hors micro, je t'ai dit tu peux dire ce que tu veux, tu peux t'inventer une identité.
Ouais,
donc,
et j'ai rien trouvé. Donc,
simple. Ton identité est parfaite comme elle est. Pour rappel, Alexis et Nicolas ne sont pas là. Alexis est sans doute en garde à vue alors qu'il est, et Nico en pleine écriture de La Grande Grande Simona, un podcast de passion. Si vous n'avez pas le contexte de ces blagues, et ben vous n'aviez qu'à écouter l'épisode de vendredi dernier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'avais teasé dans l'épisode précédent, nous allons parler d'une histoire d'amour tragique. Et je ne vais pas vous mentir, c'est l'un de mes films préférés. L'histoire d'un homme malheureux qui ne sait pas choisir l'amour facile, voire paisible, et le crépitement de l'amour passionnel. Un homme au charisme aléatoire et toxique, l'histoire de deux personnes ayant deux amants. Two Lovers de James Gray avec Gwyneth Paltrow, Vanessa Shaw, Joaquin Phoenix et Isabella Rossellini vient d'arriver sur la plateforme Mubi et nous avions très envie d'en parler. Mais d'abord, qui est James Gray? C'est Arthur qui va nous en parler.
Oui, on avait très envie de vous en parler déjà parce qu'effectivement c'est un des films préférés de Sophie, mais aussi parce que James Gray est un auteur que l'on aime toutes et tous ici, et ce depuis longtemps, parce que c'est quand même un cinéaste qui est en activité depuis maintenant 30 ans. Pour ceux qui ne le situeraient pas, James Gray, donc c'est le réalisateur qui a commencé avec Little Odessa. On le connaît principalement pour La Nuit Nous Appartient, Two Lovers donc. Plus récemment, il avait fait The Lost City of Z, Armageddon Time dont on avait beaucoup parlé, Ad Astra, film dans l'espace avec Brad Pitt. Alors oui, dit comme ça, on a un peu l'impression que un film de mafieux à New York, un film dans l'espace avec Brad Pitt, et un film dans la jungle avec Tom Holland, et une histoire d'amour, et un film dans le passé, mais ces films n'ont rien à voir. Et ben si, en fait, c'est tout James Cameron. James Cameron. Ça, c'est à cause d'Alexis, où on pense à lui et ses tomates en prison.
Il y a moins de 3D quand même chez James Gray.
Un peu moins de 3D. Non, tout ça, c'est du James Gray à 1000%. James Gray, c'est un cinéaste qui a grandi à New York et qui est peut-être l'un des réalisateurs qui va le plus parler de lui et de son passé et de ce qu'il a vécu dans ses films. C'est-à-dire que il a tout un truc sur le quartier dont il a grandi. Et ben, ça va être son premier long métrage, Little Odessa. La notion de famille, du poids de la famille et du destin, c'est littéralement dans chacun de ses films que c'est d'aborder. Lui, pour qui l'histoire familiale a été importante par rapport à ses parents, notamment, même si on rentre dans du détail, je me souviens avoir lu une interview à l'époque où il expliquait que quand il était petit, il avait peur de voir la lumière qui allait s'éteindre sous le joug de sa porte, parce que ça signifiait que sa mère potentiellement partait. Ça, c'est un thème qu'on voit dans au moins 3 films, et si je me trompe pas, dans Two Lovers également. Mais aussi, il y a un truc qui, moi, m'intéresse beaucoup, et dont on va peut-être un petit peu parler ici aussi, c'est quelqu'un qui regrette d'être né à la mauvaise époque. C'est-à-dire que quand il a 12 ou 13 ans, je crois, c'est là où il va découvrir le cinéma, c'est là où il va commencer à beaucoup aller en salle, voir les ressorties. Donc on est en 80-82, mais lui, ce qui va l'intéresser, c'est le cinéma italien des années 60-70. Ce qui va l'intéresser, c'est les Apocalypse Now, c'est un peu le nouvel Hollywood, et en même temps ce vieux cinéma, et en même temps aussi la littérature, parce que la littérature est très importante chez James Gray, que ce soit autant du Zola que la littérature russe, lui qui vient d'une famille russe. Donc voilà, c'est très riche, et en même temps, vraiment, si on regarde dans le détail, dans chacun des films de James Gray, Et ben ça raconte un peu lui, alors parfois plus que d'autres, puisque Armageddon Time est quasi autobiographique. Et Two Lovers, je ne suis pas sûr qu'un jour dans sa vie, James ait eu deux aussi belles femmes autour de lui. Il n'empêche que dans la manière de concevoir l'image, la photo, de filmer les environnements dans lesquels ça s'inscrit, et toujours, encore une fois, cette question de l'héritage familial, le poids de la pression de la famille, etc., de ce qu'on fait de sa vie et de son destin, bah en fait, y a du James Gray dans tout, et surtout dans Two Lovers.
Oui, tu parlais de son admiration pour un cinéma plus ancien. James Gray, il n'a jamais caché son amour pour la nouvelle vague, et notamment, il l'a dit lui-même, dans Two Lovers, il y a une référence ou un hommage aux 400 coups. Quand on voit Joaquin Phoenix courir sur la plage, ouais, ça fait écho aux 400 coups de Truffaut.
Mais voilà, si je me trompe pas, et je me tourne peut-être vers le monsieur littérature, mais il me semble aussi qu'il y a du Flaubert, de l'éducation sentimentale sur la fin.
Il y a beaucoup de choses, il y a aussi beaucoup de Dostoïevski, non seulement dans Two Lovers, ouais, mais dans beaucoup de ses autres films. Vous avez très bien parlé de ses influences cinématographiques, de ses goûts cinématographiques, mais oui, il faut revenir aussi un petit peu sur son patrimoine littéraire, qui est très européen, ou ouais, en tout cas pas foncièrement américain, parce qu'il connaît tout son Shakespeare sur le bout des bois, c'est pas évident. Hein,
c'est pas exactement même.
Il y a les échardes et tout. Mais c'est aussi un grand lecteur de Zola, de Flaubert, tu l'as dit, des classiques russes, que ce soit Tolstoï, Dostoïevski. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait aussi lien, tu as dit, il vient d'une famille russe qui a émigré en 1920, ouais, pour fuir la guerre civile, famille russe juive qui avait aussi connu les pogroms tsaristes. Donc c'est pas pour rien qu'il nous raconte seulement des histoires de losers. C'est pas parce que son père a planté toutes les entreprises qu'il a essayé de monter, pas seulement parce que sa mère est morte quand il avait 19 ans et qu'il a toujours été partagé entre le regret de ne pas l'avoir assez connu et une certaine défiance vis-à-vis de ses choix sociaux. C'est aussi parce que depuis au moins plusieurs générations, il vient d'une famille de gens qui n'ont pas été au bon endroit au bon moment, ou qui en tout cas ont pu se dire ça, qui ont été en décalage, qui ont été les perdants de la petite comme de la grande histoire. Donc il a un goût pour ça, c'est un goût qui est très facile à, on va dire, à développer, à retrouver, à travailler quand tu te penches un peu sur la littérature européenne. Et puis donc on va y revenir. Two Lovers, pour moi, c'est son récit le plus dostoïevskien. Hein. Je pense énormément à un roman de Dostoïevski, alors qui n'est pas Crime et Châtiment, qui est bien plus bref. Si vous voulez une porte d'entrée sur Dostoïevski, Le Joueur.
J'étais sûr. Le Joueur. Je l'ai chuchoté.
Le Joueur de Dostoïevski a, à mon sens, plein de passerelles, notamment dans la psychologie de son personnage principal, dans ses hésitations et dans la tragédie au ralenti, la tragédie intime qui se déploie ou qui ne se déploie pas avec Two Lovers. Et donc oui, c'est aussi pour ça, du coup, que c'est un réalisateur qui est plus apprécié, plus connu en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, James Gray, c'est pas un très grand nom, hormis des stricts cercles cinéphiles. Or, en Europe et en France, il y a de fortes chances pour que des gens qui ne soient pas des férus de cinéma aient déjà rencontré le chemin de James Gray.
Tous ces films ont flopé aux États-Unis. Hein.
Absolument. Et avec ce paradoxe, ce double paradoxe, que s'il est très apprécié de la critique et donc d'une partie du public européen, il a beau avoir présenté, je crois, 5 films à Cannes, à chaque fois, il s'y est fait recevoir comme la vérole chez le Baclergé, quoi. Ça a à peu près toujours été super miteux comme accueil, quitte à ce que ces films soient réhabilités très rapidement après, dès leur sortie. C'est quasiment automatique. Il me semble même que lui avait fait connaître sa volonté de ne plus concourir à Cannes, parce que bon, si c'est pour se faire peler vivant, c'est pas très intéressant, mais c'est plutôt ses distributeurs et producteurs, je crois, qui eux ont voulu continuer d'aller y présenter ses films.
Cyprien, est-ce que toi tu pourrais nous, si ça te tente, tenter de faire un vrai synopsis de Two Lovers, expliquer un peu quel est le parcours du personnage principal et en fait ça a l'air hyper simple parce que ça peut être raconté de manière hyper linéaire et pourtant je trouve que le récit est super complexe.
Ouais, je vais essayer. On commence avec un personnage qui tente de se suicider, ça c'est vraiment la première scène, il se jette à l'eau et il est repêché, donc il rentre chez lui un peu penaud. Et dont son existence a priori est terminée ou ne vaut plus la peine d'être vécue. Et dans les jours qui suivent, il va rencontrer coup sur coup deux femmes. Donc une brune jouée par Vanessa Shaw, qui lui est présentée par ses parents et qui est globalement la promesse d'une vie un peu bien rangée parce qu'elle est la fille d'un couple de commerçants qui veut unir son commerce avec celui de ses parents. Donc c'est un peu des bonnes affaires, quoi. Et une blonde qui est sa voisine de palier, jouée par Gwyneth Paltrow, qui est beaucoup plus fantaisiste, on va dire, et plus une promesse d'évasion. Et je pense que là-dedans, avec ce pitch, on a résumé en fait le sujet de toute la filmographie d'ailleurs de James Gray. Tu as parlé de son attention sur les classes sociales, puisqu'il lui-même en vient d'une classe assez basse. En fait, le sujet de James Gray, c'est le choix. Ou plutôt, l'illusion du choix. Et donc là, on est face à un triangle amoureux avec évidemment un choix à faire. Donc c'est d'autant plus intéressant de le voir faire ça quand il avait d'abord on va dire, usé de ce thème sur des films de mafia où il fallait sortir du milieu de la mafia, s'évader, s'en extraire.
Ce qui est super intéressant, c'est qu'en effet, on parle toujours du choix amoureux du personnage principal masculin. Mais il faut savoir que le personnage de Michelle, joué par Gwyneth Paltrow, a aussi two lovers. Elle a le choix pour elle d'avoir quelque chose d'un peu plus aimant, réconfortant, un homme qui est littéralement à ses pieds, qui est pétri d'amour pour elle, qui est le personnage de Joaquin Phoenix, Léonard, ou un homme marié qui lui aussi du coup est dans une double... En fait, c'est un jeu de domino. C'est-à-dire qu'on est face à des personnages qui sont contraints de vivre dans l'impossibilité de faire un choix. Moi, je trouve ça fascinant d'être dans ce jeu vraiment de domino, mais qui reste complètement statique. Et on sait que s'il y en a un qui commence à vraiment acter, à choisir, il va y avoir de la mouvance, et que la mouvance, c'est le drame, c'est forcément les conséquences directes de choix, et des choix qui peuvent être dramatiques. C'est-à-dire que l'homme que convoite Gwyneth Paltrow est marié, a des enfants, donc si jamais il l'a choisi elle, ça veut dire qu'elle ne choisit pas Léonard, et Léonard, ça veut dire que... Et en fait, c'est toujours un jeu complexe d'engrenages sentimentaux. Et moi, ce qui m'a toujours fascinée dans Two Lovers, c'est que on a bien fait de parler de littérature parce que c'est, pour moi, c'est un film de la psychanalyse. C'est un film de la psyché humaine et à la fois de la noirceur et de la perversion et en même temps des envolées que peuvent avoir des absences de morale. Et je trouve que c'est un film extrêmement complexe et que James Gray arrive à matérialiser via des scènes quasiment iconiques ou iconisantes. Le film est assez, j'ai envie de dire, linéaire dans sa structure. Il y a vraiment, donc, comme tu l'as dit, un personnage qui hésite entre la vie et la mort, puis après qui hésite entre deux femmes, puis qui hésite à tout plaquer ou à continuer un certain type de vie avec sa famille. Paradoxalement, il y a des scènes qui viennent complètement couper la notion de temporalité. Il y a une scène dans une boîte de nuit, qui est une de mes scènes préférées de toute l'histoire du cinéma, qui va nous caractériser ce personnage de Léonard. Donc Joaquin Phoenix, qui pour moi est au sommet de son art, parce que c'est une des dernières fois où on l'a vu avec autant de nuances dans son jeu.
Avant qu'il se mette à jouer Joaquin Phoenix, qui joue à Joaquin Phoenix.
Exactement. Là, c'est mon prof de cinéma à l'ESSEC qui nous avait fait analyser cette scène. Et donc en fait, pour vous la résumer assez rapidement, c'est donc Léonard qui veut séduire Michel, qui l'a emmené dans une espèce de boîte de nuit un peu branchée new-yorkaise, et il y a une espèce de cercle de breakdance qui commence à se former sur du Moby, où il y a un mec au début qui danse hyper bien et il va se jeter dans la foule. Et ce qui est fascinant, c'est que dans le cinéma, généralement, la caméra va très vite faire un choix entre iconiser, dire bah ok, ce mec est génial, il danse hyper bien, il est hyper beau, il est hyper charismatique, ou paradoxalement, c'est un loser, il y arrivera jamais. Et là, en fait, la caméra fait jamais de choix. Et le personnage ne joue jamais l'un ou l'autre. Il est un loser magnifique. Il a la possibilité de la séduire et en même temps, il est un peu pathétique. Et en fait, on n'arrive jamais à définir parfaitement quelle est la définition du personnage par la caméra. Et je trouve que c'est magnifique. Et il y a une scène sur un toit et une scène par téléphone. En fait, il y a trois scènes qui viennent à chaque fois redistribuer complètement les cartes. C'est pour ça que ça me fait rire que tu parles du joueur de Dostoïevski. Parce que pour moi, le film ne cesse de jouer avec les spectateurs sur la psyché de ces personnages. Et je trouve que c'est un film absolument fabuleux. Je pourrais vous en parler pendant des heures.
Mais c'est marrant parce que tu parlais beaucoup de l'écriture. Et en même temps, moi, de ce qui me reste, parce que j'ai vu le film il y a deux ans, à l'époque où je m'étais fait un marathon pour Armageddon Time, et je ne l'ai pas revu depuis. Mais c'est un film que j'aime énormément et qui m'est vraiment resté. Et ce qui me reste, c'est certes l'écriture, la psyché, le jeu de Joaquin Phoenix et de Gwyneth Paltrow, hein, qui est vraiment incroyable, mais la douceur des scènes, la chaleur entre les personnages, l'interaction entre eux, le côté pas charnel, parce que c'est pas un film sensuel, même
si c'est presque érotique, même justement.
Dans la retenue, par petites touches. Mais voilà, moi ce qui me reste, c'est des effets de mise en scène, un petit peu, un travail sur la photo aussi. La première scène, si je me trompe pas, c'est la tombée de la nuit.
Oui. C'est ça.
Pouah, celle-là, j'en souviens, qu'est-ce qu'elle est belle. Et tu vois, donc c'est intéressant, on parle beaucoup de l'écriture, alors que pour moi, il y a un vrai travail visuel fou aussi. Dans Two Lovers.
Mais vous trouvez vraiment le film sensuel ou... Parce que moi, je trouve que c'est une comédie romantique sans romantisme, et ce qui me le rend sympathique, parce que je suis pas...
Ah, j'allais dire, moi, sans comédie, mais...
Alors, sans... Ouais. Bah, presque, plus, parce qu'il y a des moments qui sont drôles, quand même. Le personnage est, en fait, un peu pato, donc c'est rigolo. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est un film... En fait, il n'y a pas tant d'amour que ça dans Two Lovers, je trouve. Ah bah, c'est plus un film de comment se positionner par rapport aux opportunités de la vie, et... par exemple, enfin, on va peut-être pas spoiler la fin, mais il y a quand même quelque chose d'assez fataliste et tragique dans la façon dont ça se conclut.
Mais c'est un film sur le déterminisme.
Oui, tout à fait.
Comme souvent, ou sinon toujours, chez James Gray, c'est un film sur le déterminisme. C'est quoi le déterminisme ? En gros, c'est de dire ou de constater que dans nos existences, il y a des structures. La structure familiale, les structures professionnelles, étatiques, etc. Enfin bref, j'en passe à des meilleurs. Je fais une énorme simplification, mais on évolue au sein de structures qui nous contraignent et qui donc nous déterminent dans nos choix. C'est pour ça qu'on parlait d'illusion de choix. Alors, bien sûr, plus on est conscient de l'existence de ces structures et des forces déterminantes qu'elles plaquent sur nous, plus on a la possibilité de se décaler un peu, d'y échapper, ne serait-ce qu'un temps. Et finalement, c'est toute la problématique de ce personnage. Au fond, pourquoi est-ce qu'il essaie de se tuer sinon pour échapper à la vie, pour échapper à une condition humaine à laquelle il peut rien? Parce qu'il essaye vraiment de sortir de ce flux. Et finalement, il va devoir choisir ou essayer de croire qu'il peut-être seulement envisager de choisir entre, oui, cette femme plus fantasque qui évoque quelque chose d'essentiellement érotique, en tout cas au moins au début chez lui, et puis cette autre qui représente la structure familiale, la structure professionnelle, les classes sociales. Et est-ce qu'il va pouvoir sortir de ce déterminisme? Le veut-il seulement? Est-ce qu'il peut choisir en conscience d'embrasser ça et ne pas le regretter? Est-ce que feindre de se conformer, ça n'est pas aussi se créer un espace de liberté? Et ça, c'est quelque chose qui est présent dès Little Odessa, où c'est l'histoire donc d'un tueur qui, pour le boulot, rentre dans son faubourg natal et va être confronté à son petit frère, confronté aux obligations de son métier, aux obligations familiales, etc. etc. C'est toujours ça qui est agissant chez James Gray. Et alors, c'est compliqué pour lui, parce qu'à la fois, c'est le truc le plus anti-américain du monde. Les Américains, ils sont très à l'aise avec la critique du rêve américain. Ça leur va très bien qu'on leur dise « Finalement, c'est pire que prévu. Non, ça a été vicié, mais c'était tellement beau. » Mais là, quand tu parles de déterminisme, par définition, tu dis qu'il n'y a pas de rêve américain. T'es pas le land of the free et t'es pas à une terre d'opportunité si on est tous contraints par des structures qui nous dépassent. Donc c'est un truc
C'est pas que ça a merdé, c'est que ça n'a jamais existé.
Voilà, c'est que ça n'a jamais existé. Et finalement, c'est une évidence que ça n'ait jamais existé. Et là où je trouve que Gray, il est fascinant et souvent bouleversant, c'est qu'il arrive à nous raconter ça sans être dans le théorique. T'es pas face à un type dogmatique qui essaierait de dire « Alors, par A plus B, ça marche pas trop, la liberté de tout ça, parce que voilà. » Non, ça existe à travers des personnages très incarnés qui ont des dilemmes et des confrontations très fortes. Et tu vois, je disais qu'il y avait de l'érotisme et de la fantasmatique dans le film, mais confrontation entre Léonard et Michel. Fenêtre à fenêtre, où elle lui dévoile un sein. C'est une scène où il y a tous les paradoxes de ces personnages-là qui, tout d'un coup, sont incroyablement proches et en même temps incroyablement éloignés, incapables de se réunir, de se rejoindre physiquement et pourtant capables de se transformer réciproquement en volcan émotionnel. Et voilà, la force de Gray, c'est que ses idées, ses concepts ou ses névroses, il arrive à les faire exister complètement dans ses personnages. Et c'est pour ça que le film est très beau. C'est peut-être son film dans lequel il y a le moins d'intrigues intrigantes. On n'est pas chez les mafieux, on n'est pas chez, comme dans The Yards, dans une entreprise corrompue, on n'est pas dans l'espace pour aller sauver papa, ni même chez un explorateur du début du siècle, etc. etc. Et du coup, ça n'est qu'une histoire de personnages et de matière humaine.
J'ai l'impression, si on tire un petit peu des fils, on a parlé de Flaubert. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que le film pourrait être une espèce de suite complètement tirée par les cheveux de Madame Bovary. C'est-à-dire que tout le monde sait que y a une fin assez tragique à Madame Bovary.
Ah bon ?
Je peux spoiler la fin de Madame Bovary, je pense que ça va.
À
la fin, le bateau, il coule et elle meurt. Bref, donc là...
À l'instant, je me suis dit, merde, attends, qu'est-ce que...
Non, le bateau ne coule pas, il n'y a pas de bateau dans Madame Bovary.
Mais elle meurt.
Ça manque, d'ailleurs.
Elle meurt par une... plus ou moins une tentative de suicide qui finit par très très mal se passer. Et là, on a un petit peu ça. On sait pas s'il a vraiment envie de mourir au début, mais en tout cas, on revient sur cette notion de déterminisme. En fait, le souci de Madame Bovary, c'est qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut et elle cherche, par des volontés de créer des irruptions sentimentales, pour savoir vers quoi elle va. Sauf que Madame Bovary, elle a déjà fait un choix de raison, c'est-à-dire de se marier avec ce bon vieux Charles, qui est médecin de campagne, mais elle va continuer d'explorer pour tenter d'avoir une vie qu'elle ne peut pas avoir par déterminisme. Et là, j'ai l'impression qu'on parle de la même chose. On parle de ce...
C'est un peu un monsieur Bovary. Oui.
C'est un peu un monsieur Bovary, c'est ça qui m'intéresse très très fort. Et notamment, on parlait de l'érotisme. Madame Bovary, il y a très peu de scènes de sexe qui sont décrits, mais par contre on parle aussi de sa vie conjugale, mais qui n'est jamais de sa vie conjugale avec Monsieur Charles, qui n'est jamais décrit avec autant de détails par exemple qu'avec le pharmacien. Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va voir une scène de sexe entre Léonard et Sandra, qui pour le coup n'est pas du tout érotique, qui est filmée vraiment en close-up, en plan rapproché, mais sans vraiment de dévoilement, sans progression. On est sur une forme de mécanisme.
De devoir conjugal déjà
Voilà, c'est exactement ça. On est déjà sur une forme de devoir conjugal, alors que ce sein à la fenêtre par le téléphone va rappeler à quiconque a déjà eu une discussion téléphonique ado en train d'essayer de découvrir plus ou moins le corps de l'autre sans le voir, cette espèce de premier émoi qui est complètement à la fois inconséquent mais qui est la chose la plus forte du monde et qui est brûlante. La réaction de Léonard après cette scène à la fenêtre d'amour impossible à la fantasmée de le fantasme de Roméo et Juliette de cet amour impossible va se transformer presque en ridicule quand il arrive chez l'homme adulte qui est capable de concrétiser ses choix. Et je trouve qu'en fait, dans To Lovers, il y a toute l'intelligence des grands récits qu'il a réussi à intégrer, donc du Dostoïevski, du Flaubert, du Shakespeare, et une espèce de concrétisation sociale américaine terrible et un poids familial que James Gray porte déjà sur ses épaules. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui est analysable, suranalysable, et qui en même temps, comme tu l'as dit Cyprien, peut être presque pris comme une comédie romantique glaçante et fataliste, et c'est ça qui me fascine.
D'ailleurs, juste la façon dont il rencontre Gwyneth Paltrow au début, c'est vraiment un cliché de Girl Next Door.
C'est ça.
Il y avait Gwyneth Paltrow sur mon palier. D'ailleurs, anecdote. Et bon, ça peut arriver.
Non, anecdote. Chacun ses lundis, hein.
C'est ça, exactement. Non, James Gray avait dit, pour son choix de casting, il avait dit j'ai réfléchi à quelle actrice que je pourrais jamais, en gros, pécho. Enfin, vraiment, c'était pour ça qu'il l'a dit. C'était Gwyneth Paltrow, donc il me fallait Gwyneth Paltrow. Et du coup, bon casting.
Mais t'as parlé de fatalisme, et je trouve ça intéressant parce que même quand on parle de déterminisme, si on regarde juste sur l'écriture du scénario, moi, il y a un truc qui m'avait frappé la première fois et qui peut-être un des trucs qui me reste le plus avec la scène de la discothèque, évidemment, c'est comment, moi, mon souvenir de spectateur avait été marqué par cette fin qu'on voit venir des kilomètres. On la voit venir. Et généralement, les fins qu'on voit venir, c'est jamais mon signe parce que c'est cliché, c'est facile à deviner. Et là,
sauf quand c'est l'objet du film.
Mais laisse-moi terminer, c'est exactement ce que je suis en train de raconter. Là, on sait exactement où ça va parce que ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas se terminer autrement. Et putain, du coup, c'est insoutenable parce qu'en fait, on sait très bien l'impasse vers laquelle les personnages se dirigent, l'un comme l'autre. Et ça rend le tout, difficile à regarder, mais du coup déchirant. Et la fin la rend bouleversante. Je me souviens vraiment d'avoir eu beaucoup de larmes qui avaient coulé sur cette fin. Et ça va sur cette notion de déterminisme et de faux déterminisme, de destin, etc. En fait, le scénario aussi l'est totalement. Depuis le départ, tu vois ce film, tu te dis, bah oui, ça ne peut pas finir autrement que comme ça. Et ben, ça ne finit, spoiler, pas autrement.
Moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que pour vous, parce que c'est un mot qu'on utilise vraiment beaucoup aujourd'hui, mais qu'on utilisait moins à l'époque, c'est la notion de relation toxique. Est-ce que vous considérez qu'il y a vraiment des emprises toxiques?
Oui.
Voilà, j'ai envie qu'on développe là-dessus.
Non.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Battez-vous.
Non, Cyprien. Attends, en un mot, toi aussi. Allez.
Prenez parti et battez-vous, parce que c'est un débat ouvert.
En 3 secondes et demie, si le comportement de Gwyneth Paltrow est atroce avec lui.
Ah, c'est drôle, moi, c'est plutôt lui.
Et lui est atroce avec l'autre.
Non, mais réciproquement. Mais j'ai envie de dire, parce qu'on a un peu tendance, c'est devenu un mot valise. Hein.
C'est
comme pervers narcissique et hyperactif et HPI. On emploie beaucoup le terme relation toxique.
Je suis d'accord.
C'est des relations inabouties et où les gens se font un peu mal. Mais tu vois ce que je veux dire, il n'y a personne de profondément vénéneux ou de mal intentionné ou d'horrible.
C'est là que j'ai des vraies questions là-dessus. J'ai des vraies questions sur la toxicité, la malveillance, une forme de malveillance, presque inconsciente personnages.
Léonard n'est pas toxique, mais il est opportuniste. Parce qu'en fait, c'est pas un grand romantique, Léonard. C'est-à-dire qu'en fait, il a d'un coup 2 opportunités et il va clairement jouer sur les 2 tableaux pendant tout le film. C'est-à-dire que dès qu'il prend un stop, en fait, il va un peu dans la friend zone avec Michel, donc la blonde, il rappelle l'autre, il rappelle Sandra, et dès que ça se débloque un petit peu, il y retourne. En fait, clairement, on sent que c'est pas tant l'amour qu'il cherche que le fait d'arriver à débloquer ce succès de « ok, j'ai pêché une meuf ». Quoi. Et c'est plus ça qui le, pour le faire avancer dans sa vie d'homme, en fait, puisque c'est un peu un homme enfant, il est chez ses parents encore. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais j'ai toujours un peu de mal avec cette... Enfin, il est bipolaire. Je sais pas si c'est très utile, en fait, dans la narration, ce détail-là. Enfin, ouais. Je trouve ça un petit peu, pour encore surligner la notion de choix, c'était peut-être pas nécessaire, mais c'est une aparté. Mais oui, alors, c'est, en tout cas, c'est pas un gros romantique. Et oui, c'est peut-être pas un toxique, mais un opportuniste, ça c'est sûr.
Oui, mais ce qui est assez banal dans le masculin comme dans le féminin, le personnage de Paltrow est aussi très opportuniste. Mmh, et elle l'utilise un petit peu pour se donner bonne conscience et se dire qu'elle a recueilli un petit chou avec un gros zizi. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça, à mon sens, ça ne suffit pas à en faire des personnages toxiques. Ça les rend très banal et très humain.
Bah, à partir du moment où tu sais que tu fais du mal à l'autre, mais que tu y vas quand même, il y a quand même un fond de. Pas de toxicité, mais.
Oui, mais à la limite d'acidité, le coca c'est acide, est-ce que c'est toxique?
Bah oui, oui, en l'occurrence. Alors, désolé.
Il y a deux, trois études.
Oui, mais si tu mets une pièce de monnaie dans Joaquin Phoenix, ça le ressort tout propre, c'est vrai.
Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Sophie?
Bah, moi, c'était un vrai débat que j'avais envie de lancer. J'étais pas là pour pêcher une réponse que j'attendais. Hein. C'est un vrai débat parce que la toxicité, les relations toxiques, c'est un mot valise assez récent. Et cependant, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'emprise, ça, qui est assez relative de chaque personnage sur l'autre. Moi, la notion d'amour dans les grands romans, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai même pas l'impression que Sandra, elle aime vraiment Léonard non plus. J'ai l'impression qu'on est dans un trio de personnages qui ne s'aiment pas vraiment, mais qui sont juste là pour assouvir un besoin très égoïste ou de pression sociale ou enfin en tout cas voilà, et ça rend tout très corrosif. Et donc, est-ce que le corrosif et le toxique sont pas assez voisins? Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'était ce débat autour de la toxicité des personnages.
Et justement, il y a quelque chose qui vient nuancer ça à mon sens, c'est que tu l'as dit, Sandra aussi, elle est opportuniste, mais ce qui est quand même sous-entendu avec elle, dans son comportement, alors je me rappelle plus si elle l'explicite vraiment, je pense pas, vu comment Grey aime bien être un peu fin, mais quand même, ce qui est aussi sous-entendu avec elle, c'est que peut-être en acceptant ou en feignant d'accepter ce que ses parents désirent, ce que leur groupe social désire, ils peuvent peut-être se trouver un espace de liberté et de respect plus que en essayant de se rebeller. Et là aussi, ça vient nuancer justement la dimension opportuniste, bassement matérialiste de
en
ces
fait,
amours-là.
Je ne pense pas qu'elle soit comme ça, mais il y a deux, trois petits mots qui laissent sous-entendre...
On pourrait se protéger en fait. Toi comme moi, on serait protégés d'être ensemble.
En fait, j'ai l'impression qu'elle cherche presque un mariage arrangé, parce que c'est un petit peu ça, c'est un mariage arrangé. Quand elle dit « j'ai jamais eu vraiment de relation qui a fonctionné », quand on fait la bar mitzvah de son petit frère, on sent que bon, bah, y a encore un petit frère, mais elle commence à être assez vieille, elle n'est pas mariée, les parents qui forcent en disant « le petit ami de Sandra est déjà là, viens sur la photo de famille ». Enfin, il y a tout un truc sur la convention sociale qui l'arrange bien aussi. Donc en fait, moi, c'est ça que j'aime bien et que je voulais soulever dans la notion de relation toxique, c'est que généralement, dans un film qui va m'agacer, par exemple, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a certainement, on va mettre un personnage vénéneux. On va mettre une femme vénéneuse ou un mec vénéneux et on va créer un rapport de force malsain. Là, ce que j'adore, c'est qu'il y a de la toxicité, mais qui vient de tous les côtés et qui vient créer un équilibre parfait et du coup, un très beau portrait humain.
Mais voilà, mais c'est pour ça que si je veux, voilà, le terme toxique que je comprends, que je vais pas réprouver du tout, me paraît pas totalement adapté parce que justement en fait ces relations elles sont pas univoques et bah dans nos vies, dans nos existences, sans forcément mettre l'autre sous emprise ou se faire du mal, il est rare qu'on ne se fasse que du bien ou que du mal. Et ça veut pas dire qu'on tombe dans des régimes pervers ou d'emprise qui sont d'un degré qui me semble mériter cet adjectif. C'est en fait, pour faire une magnifique métaphore qui doit me venir d'Évangélion, je pense, dans mes jeunes années. Mais tu vois, les êtres humains sont aussi un peu comme des hérissons qui essayent de se rapprocher, puis quand ils se rapprochent trop, à un moment, ils se piquent. Ils n'essaient pas forcément de se bouffer la gueule. Et c'est justement la force du film que d'être en fait toute une nuance de gris, quoi, d'une palette très très subtile.
Moi, j'ai une théorie. Je pense que si Léonard, à la fin de Two Lovers, ne trouve pas de meuf, en fait, il devient beau de Boys Afraid.
j'aime beaucoup.
Ou Napoléon, à choix.
C'est... Ah bah les deux ça fonctionne.
Les deux
hein.
Ça fonctionne, ouais.
Les deux ça fonctionne. Donc vous l'aurez compris, Two Lovers, bon c'est un film qu'on aime tous énormément autour de cette table et je pense que sans doute c'est le plus, en tout cas moi je le perçois comme ça, le plus ancré dans un réel très tangible de James Gray, en tout cas dans un quotidien peut-être plus accessible pour les spectateurs que la jungle ou l'espace ou le passé ou la mafia. Je vais commencer ce tour de table parce que j'espère que d'autres auront d'autres réponses. Moi c'est mon James Gray préféré, je l'ai pas du tout caché. j'aimerais demander à mes gentils camarades de citer un James Gray qu'ils aiment beaucoup et d'expliciter leur choix. Cyprien, à toi l'honneur.
Bah moi, je vais en prendre deux, en fait.
Ah, tu triches.
Mais en fait, ça fonctionne comme une trilogie en théorie, mais comme j'en ai pas vu un des trois, j'ai pas vu Little Odessa, donc je veux dire le diptyque de Yards et La Nuit nous appartient.
Ah ouais.
Ouais, ça c'est vraiment. Il faut quand même rappeler que les deux films se sont faits. Pougné à Cannes, et ça, ça je m'en remets pas qui c'était.
Aucun. Surtout La Nuit nous appartient, ça n'a vraiment aucun sens.
Pougné, ouais.
Non, c'est plus faible quand même.
Tais-toi, toi.
voilà, donc bah, si vous voulez, peut-être comme porte d'entrée, moi c'était ma porte d'entrée personnellement pour James Gray, c'est des faux classiques pour le coup, des films qui revisitent le film de mafia, mais toujours avec ce souci de la question du milieu et de l'extérieur du milieu et de s'en évader ou pas, et toujours un côté tragique et fataliste. Avec Joaquin Phoenix aussi. Qui là aussi, ça lui permet de varier les rôles. C'est assez. Encore une fois, ça fait plaisir de le voir de cette époque-là parce que, en fait, juste après Two Lovers, c'est là où il fait son délire avec Casey Affleck, où tu sais, il devient rappeur, là, il fait son documentaire, je sais plus comment ça s'appelle.
I'm Still There,
oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, il n'est pas là dans les promos de Two Lovers parce qu'il est en plein dans son délire. Et je crois que ce que c'est là, c'est que c'est parti en sucette, qu'après on l'a un peu perdu. Bref, donc juste pour ce bon vieux Joaquin Phoenix de l'époque, faut les voir. Et il y a Mark Wahlberg qui joue bien, donc.
Marky Mark.
Moi, ce sera sans doute. Bah, mais j'adore hein, The Yard, je trouve que c'est un film exceptionnel. Et quand bien même je dis que demain nous appartient. La nuit nous appartient et sont plus faibles. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui aimeraient arriver à ce niveau-là. Je veux dire, c'est un très très bon film, mais je trouve qu'il est un peu moins tenu que
genre
les autres.
Genre le réalisateur de Godzilla.
Par exemple. Non, moi, c'est
de Lost City. Son nom.
Adam Wingard. Moi, c'est The Lost City of Z qui
est. Putain, c'était le mien.
Bah, tout ça, je vais être bref pour vite te passer le flambeau de parole. The Lost City of Z, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est à un niveau de précision, je trouve, dans l'intime qui est tout aussi remarquable et impressionnant que dans tous les films qu'on a cités précédemment. Et qu'il arrive à conjuguer ça avec, pour le coup, un sens du romanesque, mais un romanesque contrarié. Une épopée qui n'arrive jamais à devenir une épopée, une aventure qui n'arrive pas à devenir une aventure. Et aussi avec cette idée de l'échec paternel qui te maudit et t'emmène un peu malgré ou grâce à l'amour que peuvent se vouer un parent et son enfant. Donc voilà, tout ça, je trouve que ça en fait un film extrêmement impressionnant. La photo qui est de Darius Conji, si ma mémoire est bonne, est parfaitement stupéfiante. Enfin voilà. Et puis, c'est peut-être, c'est pas si fréquent que ça, moi, un des derniers plans de long métrage qui m'a le plus marqué de toute ma vie, vraiment. Le dernier plan de Lost City of Z où Sienna Miller, qui joue donc la veuve d'un des personnages principaux, entre littéralement dans le décor. C'est absolument incroyable. Voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, un espèce de néo-classique incroyable.
Bah, moi, c'est mon préféré, The City of Z, mais du coup, vu qu'il a cité, moi, je vais en citer un autre. Hein, voilà, bravo. Un film qui n'est pas parfait, et Simon trouve que, notamment à cause de sa fin pas maîtrisée, ça s'entend. Il n'empêche que quand on a su que James Gray, qui est effectivement quelqu'un qui est quand même assez ancré dans le réel ou dans l'histoire, allait se diriger vers un film de SF, du futur, dans l'espace, on se demandait bien comment il allait pouvoir réussir à se démerder avec ce projet-là. Vous savez, c'était un peu la mode des graffitis, tous ces films un peu comme ça, et comment lui, il allait réussir à injecter de lui-même. Bah putain, Ad Astra, c'est incroyable. Parce que Ad Astra, c'est, pour la faire très très courte, Brad Pitt qui va chercher son papa dans l'espace. Tous les thèmes rattachés à la famille, à la solitude, au fait d'être perdu, à ce destin, est-ce qu'on a une chance de pouvoir s'en sortir ou pas, comment on s'en débarrasse. Le tout avec des courses en véhicules motorisés sur la Lune, oui.
Oui.
Ad Astra, oui, oui. C'est pas la meilleure porte d'entrée de James Gray. Moi, je pense que la meilleure porte d'entrée, c'est effectivement la trilogie de la mafia ou Two Lovers, quelque part. Mais une fois qu'on a compris un peu qui il était, quels étaient ses thèmes, quelle est sa manière d'aborder le cinéma et l'écriture et la mise en scène.
On en a pas beaucoup parlé, mais peut-être que la meilleure porte d'entrée, Armageddon Time, c'est très facile en fait. C'est très très facile,
et
c'est très accessible, et peut-être que comme il parle de lui, moi je sais qu'après avoir vu Armageddon Time, j'ai revu des choses dans son cinéma qui sont très jolies aussi, et peut-être que c'est pas le plus stylisé, mais c'est sans doute celui qui va le plus toucher au cœur, là où peut-être que Two Lovers, c'est bien d'en avoir vu un ou deux, et je dis ça en ayant découvert Two Lovers en premier, hein, mais c'est un cinéma de la maturité très particulière, très torturé, et peut-être...
c'est un drame romantique, tout le monde n'a pas envie de se frotter à ça.
Exactement. Mais nous, on adore Two Lovers et surtout, on vous conseille de le voir. C'est avec Gwyneth Paltrow, Vanessa Shaw, Joaquin Phoenix et Isabella Rossellini, dont on a peu parlé, mais qui joue la maman de Joaquin Phoenix et qui est superbe, tout en retenue, et qui a peut-être que une dizaine de lignes de dialogue dans le film, mais qui pourtant a l'échange le plus crucial pour moi à la fin du long métrage. Le film est dispo sur Mubi et nous vous encourageons très très fort à le regarder. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un crush ? Bah, c'est cette espèce de picotement dans le ventre qui est très agréable et qui vous donne un boost, une petite sensation d'amour. On a souvent ça à l'adolescence et parfois les crushs ça dure et ça finit soit par être un sujet de thérapie, soit on finit par en parler autour d'un micro dans un podcast. Et ma théorie c'est que Simon a un crush irrésolu sur Kate Beckinsale, donc il nous parle aujourd'hui d'Underworld 2.
Le 2, mais qui est tellement bien. Alors, excusez-moi hein, de ne pas être dans vos espèces de films d'intello proto-nouvelle vague américano-européen.
Juste le crush ?
Bah, peut-être, oui. Et puis, irrésolu. Enfin, je veux dire, ni elle ni moi n'allons mourir demain. Hein. Pour l'instant, bref.
Pour Underworld 8, je ne sais pas où on est.
Il n'y a pas de problème, hein, moi je relance la franchise quand ils veulent. Quoi. Underworld 2, alors... Évidemment, tout le monde a envie de rire quand on dit ça, parce que Underworld, bah, ça a cette image vraiment de machin, de série B, un peu poisseuse, un peu pété, qui s'est transformée en franchise très poisseuse, très pété. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on vient foutre avec Underworld 2 ? Bah, figurez-vous qu'Underworld 2, c'est de la grosse balle. Mais vraiment, je suis totalement au premier degré, c'est un putain de film, pour plein de raisons. Déjà, la franchise Underworld en général, c'est ce qui est arrivé de mieux ou de plus... plaisant, dans le sens un petit peu, ouais, série B, crasse poc, assez rigolote et... très premier degré. C'est ce qui est arrivé de mieux à deux modes qui copulent furieusement pour donner cette franchise. C'est la mode du post-Matrix, à savoir tout le monde a du cuir et des ralentis et des gros guns qui font et la mode des vampires avec des guns, du cuir, des ralentis et qui s'habillent vraiment si je veux, comme les figurants d'un clip de placebo quoi.
Genre la reine des damnés
mais bien sûr, mais ça appartient à toute cette mouvance-là. Et ces deux mouvances-là, elles ont donné à peu près que de la marde. Mais
genre la reine des damnés.
Oui, ou ultraviolet, le ultraviolet, ou Aeon Flux.
Oh ah oui.
Alors, on ne dit pas du mal de Karine Kusama à ce micro, c'est genre pas possible.
D'accord. Je ne dirais pas du mal de Aeon Flux. Et donc voilà, c'est vraiment, je veux dire, un espèce de sous-genre qui n'a accouché que des troncs fumants ou de navets radioactifs. Mais pas Underworld 2. Mais même pas le premier Underworld, qui avait ce côté Roméo et Juliette, vampire, loup-garou, avec une mythologie basique de chez basique, mais totalement premier degré, sans aucun cynisme, jamais goguenarde, des effets spéciaux assez solides. Et en fait, le 2, il va tout démultiplier, mais à 100 000 à l'heure. Déjà, il faut savoir que c'est réalisé par Len Wiseman. Il faut savoir, parce que c'est pas très important, en fait. Len Wiseman, en vrai, c'est pas un grand metteur en scène du tout. C'est tout sauf quelqu'un qui a un univers très marqué, une patte d'auteur, etc. Mais c'est un technicien super capable qui est toujours, et je le dis pas du tout d'une manière condescendante, mais ultra lisible, très clair dans les intentions, notamment dans les scènes d'action. C'est un peu important quand on fait un film d'action. Et du coup, il va collaborer de manière très pertinente et très intelligente avec le responsable de tous ces effets spéciaux, c'est Patrick Tatopoulos, qui fut un temps vraiment un des grands papes des effets spéciaux hollywoodiens. Et donc Tatopoulos, comme il n'a pas un budget illimité, il va lever un peu le pied sur le numérique et faire un vrai film de monstre à l'ancienne. Alors à l'ancienne, dans les techniques qu'il emploie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de maquillage, de la maquette, des gros animatroniques. Un loup-garou blanc albinos géant qui vit depuis des siècles, qui est tout en mécanique, qui est sublime. Le tout dans cet univers complètement décadent de post-Matrix où on fait des pirouettes partout. Et ce mélange, en fait, est assez curieux et a vraiment un petit goût de pop-corn et d'adolescence que moi, j'aime beaucoup. La direction artistique, pareil, elle est très post-goth, néo-metal, machin. Mais elle est faite avec un soin qui est assez étonnant. Il y a plein de bonnes idées. Tu parlais de Kate Beckinsale, mais c'est pas si souvent qu'on a un personnage d'action féminin qui est joué avec un certain second degré et en même temps un véritable athlétisme, enfin qui y va à fond, quoi, qui se donne. C'est vraiment très très cool. Je veux dire, c'est quand même un film dans lequel, en l'espace de 1h50, on arrive à t'enchaîner une scène médiévale avec des soldats templiers vampires contre des loups-garous villageois allemands. Après ça, t'as un espèce de Dracula volant à l'ancienne, à la Universal Monsters, qui attaque un camion à l'aube. On enchaîne avec un gros massacre de villageois, plein de loups-garous, plein de vampires, on s'attire tout le temps. Ça se termine dans un château transylvanien avec une bataille d'hélicoptères et des loups-garous géants. Non mais sérieux quoi. Comment est-ce qu'on peut ne pas aimer ce film? Moi je donne presque envie.
J'avais grave kiffé. J'avais le 1, le 2 et le 3 en DVD. Donc
Le 3 aussi.
J'avais le 3, mais
le 3 c'est plus dur.
Je l'ai pas. Tu sais, des fois, t'achètes des DVD, tu la regardes, mais c'était quand j'étais ado.
Le 2 est ouf. Et en plus, moi, il y a. Alors, un détail mais qui me fait vraiment rire quand je le revois, parce que oui, je le revois. Il faut savoir que donc Len Wiseman, à l'époque en tout cas, est donc en couple avec Kate Beckinsale.
Mais il n'est plus, t'as toutes tes chances, Simon.
Mais c'est pour ça que je le confondais avec Resident Evil, parce que c'était comme Mila Jovovich avec Paul W. Anderson.
Et donc ils sont en couple, et comme l'histoire est centrée autour d'un truc, je veux dire, un amour impossible, sinon compliqué, à la Roméo et Juliette, bah, il faut bien qu'il y ait une petite scène de fion, quoi. Et en même temps, on est avec des vampires ça, et des loups-garous, ça doit être un peu sexy, donc il faut que tout ce petit monde soit un peu à poil, et tu sens que le mec, il est dégoûté de filmer sa nana avec un acteur. Et donc, je pense, c'est une scène de sexe, à mon avis. Alors, il y a deux solutions. Soit vraiment, il a vraiment ses grands morts de devoir filmer ça, ou alors les loups-garous ont des pénis géants, parce que je n'ai jamais vu des gens réussir à faire l'amour en étant aussi loin. Et la scène est rigolote parce qu'en même temps il y a une idée de scénographie qui est pas géniale mais qui est plutôt marrante, parce que le soleil va se lever et ils ont très très envie de copuler, donc bah il faut obstruer, il faut bloquer le soleil qui arrive, on se déshabille, on est tout en cuir, ça fait des bruits rigolos, et en même temps il faut dire que là c'est super chaud, on est vraiment chaud du fiac, mais on peut pas trop se toucher, et donc ça donne une scène qui est à la fois relativement créative et complètement con, et voilà. Et moi j'ai mais vraiment un amour absolument sincère pour ce film qui pour moi est vraiment la rencontre entre ce qui aurait pu être le pire du cinéma adolescent de la fin des années 90 début 2000 et le meilleur d'un certain artisanat du film de monstre à l'ancienne.
Et c'est 2006 Underworld.
Ouais, 2006.
Hein.
Underworld, c'est un putain de petit bonheur injustement méprisé.
Mais tu reconnaîtras quand même qu'il y a une étalo très vert bleuâtre,
bleu post-matrix. Hein.
Ouais.
Mais ou moi j'ai une question dans ce genre-là. Du coup, toi, t'es pro ou contre Constantine?
Ah moi le premier, on est d'accord, on parle pas de la série ni rien, on parle du premier Constantine,
ah non,
avec
Keanu Reeves et Tilda Swinton.
Alors je précise que je l'ai pas revu depuis quand même pas mal d'années, mais moi j'en avais gardé un souvenir plutôt très sympathique.
Parce que pareil, c'était un peu dans la même vibe.
Ouais, mais je trouve qu'il y avait plein d'idées de direction artistique qui étaient plutôt cool, que malgré toutes les infidélités qui sont faites aux matériaux de base, il y avait dans l'état d'esprit un truc un peu sale gosse qui fonctionnait bien, et il y a quelques idées, ouais, il y avait quelques jolies idées, moi j'en garde un bon souvenir.
Mais moi j'ai une autre question pour toi Simon, parce que je n'ai vu aucun Underworld.
Oh.
Le 1
le, oui. 1 le 1 franchement il est funky,
le 1
rigolo.
Ok, le 2 ok,
le 2 ok, le
et
3
après
le 3 le 4 le 4 c'est vraiment l'époque, tu sais, où Hollywood ils n'avaient plus rien à battre, ils tournaient au sens strict du terme, hein, dans des parkings roumains, et là tu fais les mecs c'est pas une base souterraine, c'est un parking roumain. Non les mecs, ce n'est pas le labo des méchants, c'est toujours un parking roumain. Et à un moment et ce qui est génial c'est que le climax se passe dans un vrai parking, il fait voilà, là on est dans un parking
comme le Marvel, tu veux dire.
Ouais mais là vraiment vraiment beaucoup. Donc le 4 là, le 5 et le 6, je crois qu'il y a un 6e qui doit être Blood Wars.
Ouais, il a l'air cata. Hein.
Il allait un peu, pas trop. Un peu.
Sachez quand même que Len Wiseman, c'est quand même celui qui a fait le remake de Total Recall. Et c'est lui qui va réaliser le spin-off John Wick Ballerina. Voilà.
Et qui a réalisé d'ailleurs 4.
Ouais.
Je peux plus.
Ça part bien, effectivement. Et juste une question, quelqu'un des nouvelles de Kate Beckinsale, du coup?
Elle a joué dans différentes petites espèces de comédies romantiques ou dramédies romantiques ces dernières années. Je les ai vues, peut-être pas. Ou pas. c'est plutôt une. Moi, je trouve que c'est toujours une assez bonne comédienne. Elle est toujours juste à sa place. Elle arrive toujours à donner un peu de réel. Tu vois, elle prend toujours les rôles avec justesse. C'est ça que je veux dire. Juste à sa place, ça veut rien dire. Moi, j'ai encore une fois, je trouve qu'elle est souvent très marrante et je trouve qu'elle joue bien, Kate Beckinsale.
C'est clairement un crush.
C'était clairement un crush.
Moi non, mais.
Non, mais on parle de Simon là.
Ah, pour Simon, bah oui, la question se pose pas. Je croyais qu'on faisait tous un tour de.
Ah, bah non, moi je connaissais pas.
Ah, bah oui, tu es vraiment jeune. Tu regardes sa filmographie.
Elle n'est pas vieille.
Non, elle est pas vieille du tout. Mais juste, elle fait des choix de carrière aléatoires ces dernières années. Mais bon, on lui souhaite plein de bonheur et de croiser le chemin de Simon, I guess.
Ou pas, hein.
Ou pas.
Non mais je n'en ai pas envie, moi je suis un homme comblé, mais je rêverais de l'interviewer.
On va dire ça comme ça.
En tout cas voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On remercie encore nos Josiane d'amour, mais surtout Cyprien d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Mais merci à vous.
Ça va, tu n'es pas ni traumatisé, tu vas revenir peut-être.
Je vais revenir, mais je vais voir Underworld avant.
Ouais, on va vraiment voir 1 et 2.
Non mais dans le 1 il y a Bill Nighy quoi.
C'est bon, on est convaincus.
En tout cas, on vous encourage à nous suivre sur les différentes Rosales sociales et à nous écouter sur les applications de podcast et en streaming. Si vous nous écoutez avant que l'événement ne soit passé, allez le 11 avril à 20h à l'Hurlequin pour voir le film Speak No Evil en présence de son réalisateur et évidemment de notre Nicolas Martin National pour animer la séance. Et le samedi 27 avril à 18h à la Ferme du Buisson, c'est assez facile d'accès sur le RER A, nous allons enregistrer un épisode en live consacré à Birdman. En tout cas, on vous en dira plus sur la manière de se rendre à la Ferme du Buisson et le programme plus précis sur nos réseaux sociaux la semaine prochaine. Cette semaine, vous aurez un nouvel épisode de Alerte Spoiler. Il est consacré à la série Ted Lasso et j'ai des invités incroyables. Masha, qui se définit elle-même comme un Gremlins qui pratique le motion design et la BD. Elle est talentueuse et j'ai hâte de vous la présenter. Il y a Sébastien, qu'on appelle aussi Esprit pour les intimes, et c'est un joueur de jeux de société averti, un podcasteur de talent qui a notamment produit Paris sur la bouche et c'est une des meilleures personnes du monde. Et enfin, celle qui a soufflé le choix de la série, Camille Giry, sera avec nous. Vous la connaissez sans doute pour son duo féministe Camille et Justine sur Instagram, mais surtout pour son spectacle dont je vous avais déjà parlé, tous les mercredis à la Nouvelle Scène à Paris, et qui est absolument formidable. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt les amis, et surtout, gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.